Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
À la une de l'actualité, il est beaucoup question en ce moment de cette réforme autour de la PMA. Il est également question de la GPA. Il est question aussi de la question de la fin de vie avec l'affaire Vincent Lambert et ses conséquences. Il a été question pendant les élections européennes du rapport des Français avec la morale publique, la morale privée aussi, puisque on considérait qu'il y avait un retour du conservatisme. Bref, ce sont des questions qui sont traditionnellement abordées dans les médias et généralement on les traite de manière assez incertaine. Voici un instrument pour les traiter de manière très précise, une enquête qui est consacrée aux valeurs des Français, une enquête sans précédent qui est faite en France mais avec des relais dans le monde entier, ce qui permet là aussi de faire des correspondances internationales. Et donc j'ai jugé qu'il était intéressant d'en faire profiter les auditeurs de France Culture pour que vous puissiez vous aussi vous faire un avis et puis pour qu'on puisse aussi faire un portrait très précis de notre pays sur le rapport que nos compatriotes ont par rapport aux différentes valeurs du monde contemporain. Nous sommes en compagnie de deux personnes qui ont travaillé sur cette enquête. Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et au CVPOF, et puis Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à l'IEP de Grenoble. Bonjour à tous les deux. Peut-être bonjour, un mot, bonjour. Pierre Bréchon, pour nous expliquer en quoi consiste cette enquête qui est encore une fois une enquête sans précédent.
Alors, elle est sans précédent déjà pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire que c'est une enquête très approfondie sur les valeurs des Européens, et donc on a 30 à 40 pays pour lesquels on a des chiffres, et dans le monde on a des enquêtes très semblables avec des questions qui sont proches, qui permettent aussi des comparaisons avec d'autres pays. Donc c'est une très grosse entreprise qui a une autre force, c'est que elle est renouvelée dans le temps, c'est-à-dire que c'est une enquête qu'on fait à peu près tous les 10 ans, ce qui permet de voir les évolutions. Quand on n'a qu'un point d'observation, on est un petit peu aveugle. Alors que quand on a plusieurs points d'observation dans le temps, on voit les tendances et c'est ça qui est le plus important. Et donc notre enquête a commencé en 1981, donc ça fait une quarantaine d'années et on fait la même enquête avec des questions très semblables voire identiques tous les 10 ans.
Bruno Cotresse.
Oui, c'est ça qui est absolument essentiel, c'est de pouvoir effectivement comparer. On va voir tout à l'heure dans les analyses que la dimension longitudinale, temporelle, permet d'avoir un regard sur l'évolution des valeurs des Français, souvent qui permet un regard extrêmement profond. Alors que vous le disiez tout à l'heure, ce sont des sujets sur lesquels on va souvent très vite, du point de vue des commentaires, du point de vue de ce qu'on entend dans l'espace public. Ben là, on a un instrument qui est très lourd. Il faut aussi ajouter que les dimensions qui sont explorées par l'enquête sont extrêmement nombreuses et elles sont elles-mêmes répétées dans le temps. Il y a la question de la famille, il y a la question du travail, il y a la question de la religion, il y a la question de la politique, la question de la citoyenneté. Donc on a tout un ensemble, la sociabilité, on a tout un ensemble de dimensions qui nous permettent d'expliquer le rapport aux Français à la fois vis-à-vis de la sphère publique et de la sphère privée.
Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque le journal de 7h30 évoquait l'affaire Vincent Lambert sur les questions de fin de vie. Pierre Bréchon, que dit cette enquête et que dit son évolution? Puisque ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a donc du recul, on sait comment l'attitude des Français a évolué sur tous ces thèmes.
Alors en effet, juste une précision, donc comme c'est une enquête internationale, on ne peut pas avoir des questions trop marquées par des thèmes nationaux. Donc on ne pose pas la question de savoir ce que les gens pensent de l'affaire Vincent Lambert, mais par contre, on leur demande, sur une échelle de 1 à 10, de nous dire s'ils trouvent l'euthanasie totalement justifiée ou absolument injustifiée. Et cette question existe depuis 1981, et ce qui est tout à fait clair comme conclusion, c'est que l'évolution sur l'acceptation de l'euthanasie est extrêmement forte. Aujourd'hui, il y a près de 2 Français sur 3 qui mettent la justification de l'euthanasie, trouvent normal que l'euthanasie soit possible, qu'on puisse finir sa vie quand on en a envie, comme on l'entend, quand on est atteint de maladies fortes. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une évolution en 40 ans énorme. C'est un bouleversement. Il y avait à peine un tiers des gens qui étaient
favorables. Ah oui, donc ça a monté de manière considérable.
Considérable. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le libéralisme des mœurs, c'est-à-dire la liberté de faire ce qu'on veut dans sa vie privée. Donc ça, il y a dedans l'euthanasie, mais il y a aussi le divorce, l'avortement, l'homosexualité, je dois en oublier, mais c'est pas grave.
Non, ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, Pierre Bréchon, c'est qu'il y a une corrélation très forte, c'est ce que montre cette étude, entre une sorte de bloc. Alors, a priori, ces items n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il n'y a pas de lien entre l'avortement, l'euthanasie, l'acceptation de l'homosexualité, sinon le fait que l'on observe une progression parmi les Français, et il y a une forte tendance chez les individus à accepter l'un et l'autre de ces items lorsqu'on est dans le domaine des mœurs. Un commentaire, Bruno Cotresse.
Oui, deux commentaires. Le premier, il est un peu méthodologique. Ces grandes enquêtes sont construites autour de l'idée que, de manière sous-jacente, les individus qui vont répondre au questionnaire de l'enquête, de manière sous-jacente, eh bien, leurs réponses peuvent être expliquées par quelque chose qui est encore plus fort que ces différents éléments. Dans l'exemple dont nous sommes en train de parler, il est évident qu'effectivement l'opinion sur l'euthanasie, l'opinion sur l'avortement, l'opinion sur un certain nombre d'évolutions sociétales dans le domaine des mœurs, eh bien s'explique par le fait que, de manière sous-jacente, il y a cette grande dimension qu'on appelle le libéralisme culturel. Et en toile de fond, il y a même quelque chose d'encore beaucoup plus important que l'ensemble de ces enquêtes documentent extrêmement bien, qui est la montée de ce que Pierre Bréchon, dans ses travaux, appelle l'individualisation. C'est-à-dire cette tendance à ce que, de plus en plus, au travers du temps, au fur et à mesure que les décennies passent, s'affirme l'idée de l'autonomie de l'individu, de sa libre capacité à décider ce qui est bon pour lui et pour sa vie. Et ces dimensions de l'individualisation sont l'un des acquis les plus forts de ces enquêtes.
Alors néanmoins, comme on a affaire à des enquêtes très précises, on voit qui est le plus favorable à l'euthanasie, au divorce, à l'avortement, et à contrario, Pierre Bréchon, qui est encore résistant sur ces différents points. Là aussi, éclairez-nous.
Alors, ce qui nous... dans le livre que vous êtes en train de feuilleter...
La France des valeurs.
La France des valeurs, 40 ans d'évolution,
publié aux presses universitaires de Grenoble.
Donc ce qu'on voit très bien, c'est que sur 40 ans, les générations ont beaucoup moins de différences qu'avant. En 1981, il y avait une spécificité forte des jeunes générations par rapport aux générations plus âgées. C'est-à-dire que les jeunes étaient beaucoup plus favorables au libéralisme des mœurs, alors que les générations âgées étaient réticentes, voire très opposées. Aujourd'hui, il y a très peu de différences entre les générations. C'est ça le point fondamental. Il y a très peu de différences, sauf les générations nées avant la Seconde Guerre mondiale. Donc les générations nées avant 1945 sont plus résistantes à l'égard du libéralisme des mœurs, mais sinon il n'y a plus beaucoup de différences.
Alors, on observe quand même une différence en fonction donc du degré d'étude, et ça...
Oui, donc en fonction du degré d'étude, c'est lié un petit peu... Donc en fonction du degré d'étude, c'est vrai que plus on a fait des études, plus on est ouvert au libéralisme des mœurs. Ça, c'est clair. Donc toutes nos enquêtes, pas seulement sur ce sujet, mais sur d'autres sujets, montrent que le niveau d'étude est très important pour la structuration de valeurs qu'on appelle, aussi dans les enquêtes du CEVIPOF, qu'on appelle des valeurs d'ouverture, des valeurs d'ouverture.
Alors, je donne deux exemples. Par exemple, l'acceptation de l'homosexualité est chez les Français qui ont le brevet ou moins. Il y a un Français sur deux qui considère que l'homosexualité est justifiée. Chez ceux qui ont un diplôme post-bac, c'est 78% des Français qui considèrent que l'homosexualité est justifiée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation forte à la fois avec, par exemple, l'acceptation de l'homosexualité et l'acceptation de l'homoparentalité. Là, 60% des Français qui ont moins que le brevet trouvent que celle-ci est acceptée, l'homoparentalité. 73% de ceux qui ont un diplôme post-bac, il y a donc un libéralisme des mœurs. C'est un constat, hein. Je précise aux auditeurs qu'il ne s'agit pas d'un jugement, mais quelque chose qui ressort de la lecture simple des chiffres et qui, là aussi, dessine des perceptions différentes du monde, Bruno Cotrès.
Ah, bien sûr, ces perceptions du monde, elles sont effectivement très corrélées avec le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation est devenu un peu comme une sorte de résumé de la capacité à l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Et c'est vrai que nous sommes dans les sociétés, particulièrement dans les sociétés européennes, des sociétés où les clivages liés au niveau d'éducation sont de plus en plus importants. Il y a une forme d'homogénéisation sur d'autres clivages, mais sur l'éducation, par contre, et ce qui est vraiment assez intéressant, c'est que ces clivages sont d'autant plus importants que dans nos sociétés, le niveau d'éducation s'est diffusé aussi. Nous sommes des sociétés, les sociétés européennes, où le niveau moyen d'éducation est très élevé. On est parmi les sociétés qui, au plan mondial, ont les niveaux d'éducation et de qualification les plus élevés. Bien justement, dans un processus où tout le monde monte en éducation, où le niveau d'éducation monte de manière assez spectaculaire au fur et à mesure des générations, le fait d'être dépourvu d'éducation ou le fait d'être moins haut dans l'échelle des niveaux d'éducation devient quelque chose qui est de plus en plus, qui fait un ensemble de valeurs de plus en plus particulier, qui met de plus en plus à part ceux qui sont un peu en dehors de ce processus de montée de l'éducation.
Et alors, toujours lorsqu'on dessine une carte des valeurs des Français, on s'aperçoit que pour les Français les plus éduqués et les plus aisés. Là, il y a évidemment une corrélation bien souvent entre les deux. L'ouverture à l'autre, la confiance à l'autre, l'acceptation des immigrés est plus forte que chez les Français les moins aisés et les moins diplômés. Les corrélations sont très fortes là-dessus, Pierre Bréchon.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les valeurs des Français comportent des différences selon les niveaux de diplôme, selon les catégories sociales, et que l'ouverture à autrui, la confiance spontanée à autrui est plus forte quand on a fait des études que quand on n'en a pas fait. Ce qui veut dire que, au fond, quand on a fait des études, on a une curiosité sur le monde qui est plus importante. On a des capacités de réflexion et donc de relativiser les choses, de comprendre autrui qui est plus importante que quand on n'a pas fait d'études.
Alors, ce qui veut dire que si on essaye de faire des applications politiques de ces valeurs des Français, on se rend compte par exemple que l'insuccès des Républicains était en quelque sorte prévisible, tandis que le positionnement d'Emmanuel Macron, qui à la fois a un positionnement en matière de libéralisme économique, de tolérance en matière de mœurs et un positionnement plus à droite sur les valeurs économiques, et semble-t-il un cocktail qui peut largement plus séduire les électeurs qui sont dans ce côté-là de l'acceptation de la libéralisation des mœurs. Bruno
Cotrès. Très clairement. Au fond, la difficulté pour les forces politiques de penser toutes les dimensions qui sont aujourd'hui très bien traduites dans l'enquête. On a eu au cours des dernières années, depuis 10 ou 15 ans, tout un ensemble de réflexions, de discussions sur la droitisation de la société française. Et ces discussions ont tendance à ignorer le temps un peu plus long. Et c'est en ça que la durée de cette enquête, depuis plus de 40 ans, effectivement, est tout à fait essentielle. Parce que si on prend le recul du temps sur les dernières décennies, on voit qu'on est plutôt dans une augmentation des valeurs de la tolérance culturelle. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, un projet politique qui serait exclusivement centré sur les valeurs du conservatisme, sans aucun doute qu'il y a un espace politique, mais cet espace politique est de facto de plus en plus réduit.
Et ça, c'est extrêmement important. Alors, il s'agit, encore une fois, pas de poser un jugement de valeur. Les auditeurs sont libres de choisir les valeurs auxquelles ils adhèrent ou les valeurs qu'ils refusent, Bruno Cotrès. Mais ce qui est particulièrement important, c'est de se rendre compte que ce discours sur la montée de la droitisation ou du conservatisme, il n'est pas visible dans les chiffres, et c'est même plutôt à la tendance contraire qu'on assiste.
Oui, dans en toile de fond de cette enquête, il y a aussi un ensemble de réflexions d'un ensemble de nos collègues américains, les politistes américains Ronald Engelhardt, Pippa Norris, qui dans un livre très important viennent de théoriser l'idée que dans des processus de longue durée de montée des valeurs de la tolérance, il peut y avoir des moments de courte durée qui sont des retours de bâton. Ils appellent un retour de bâton culturel la période que nous vivons depuis une quinzaine d'années. Donc on peut avoir à la fois une évolution de longue durée qui est favorable à la tolérance, à l'ouverture aux autres, et puis de temps en temps, notamment lié au contexte économique, une sorte de retour de bâton, retour vers des valeurs qui sont un peu plus traditionnelles, mais ça n'enraye pas la machine de long terme, qui elle est une machine de long terme, de progression de la tolérance et de l'ouverture aux autres.
Alors ce qui veut pas dire là aussi que tous les Français sont d'accord, hein, on le précise voilà. Bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont clivantes. Alors, par exemple, l'immigration est une thématique clivante. Et là aussi, on comprend bien comment les partis politiques peuvent utiliser ces thèmes pour cliver Pierre Bréchon.
Oui, tout à fait. Donc, on sait que l'immigration est un des thèmes favoris du Front National d'abord, du Rassemblement National aujourd'hui. Donc depuis, c'est sur ce thème de l'immigration que le Front National, au début des années 80, a conquis un électorat, on va dire. Hein. Et donc, les acteurs politiques peuvent, au fond, se saisir des thématiques je dirais d'actualité et liée aux valeurs des Français pour construire des programmes. Et évidemment, dans le jeu politique, tout est très compliqué parce que les valeurs sont des éléments du choix, mais d'autres éléments jouent aussi les thèmes à l'agenda, les personnalités. Donc, tout ça est très compliqué. Le vote ne reflète pas directement les valeurs. Les valeurs jouent un rôle, mais de manière assez médiatisée. Mais en tout cas, donc en effet, le thème de l'immigration est important. Et ce qu'on oublie trop quand on a l'œil vissé sur le présent, c'est que, en longue période, l'acceptation des immigrés a plutôt augmenté dans la société française et la xénophobie a plutôt baisser.
Mais alors, là aussi, il faut raffiner cette remarque, Pierre Bréchon, à partir d'un certain nombre de chiffres. Lorsqu'on demande, par exemple, aux Français s'ils veulent ou non habiter à côté d'immigrés, le pourcentage oscille, mais pas de manière significative, entre 6 et 12% depuis 1981.
Oui.
On voit pas de tendance nette. On a l'impression qu'il y a toujours, disons, environ 10% de Français.
Ça a quand même un tout petit peu baissé, de très peu, de 3-4 points. Ce qui est important à voir, c'est que de toute façon, il y en avait déjà très peu en 81. Qui voulaient pas avoir comme voisins des immigrés, des musulmans, etc. Bon, ce qui est plus important, de mon point de vue, c'est l'évolution qu'il y a eu sur un autre indicateur qui demande si, quand les emplois sont rares, on doit les réserver à des Français. Et ce qu'on voit très bien dans les réponses, c'est que il y avait 60% qui étaient favorables à la préférence nationale en 81 ou en 90. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 40. Ce qui veut dire que sur ce thème-là, l'ouverture a beaucoup progressé.
Pierre Bréchon, Bruno Cotresse, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à détailler les renseignements absolument passionnants que cette étude consacrée aux valeurs des Français donne sur notre société. On va notamment évoquer le rapport au matérialisme. Par exemple, comment les individus voient la consommation, comment les individus voient le système économique, les chômeurs, puisqu'on parle beaucoup de réforme de l'allocation chômage. Les chômeurs sont-ils responsables de leurs conditions? On voit que là, il y a beaucoup d'évolution et beaucoup de renseignements à tirer de cette étude. On va voir avec nos invités Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à l'IEP de Grenoble, et Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, deux chercheurs qui ont participé à cette très grande enquête sur la France des valeurs, 40 ans d'évolution aux presses universitaires de Grenoble. On va voir dans quelle mesure l'épisode des Gilets jaunes s'inscrit dans l'évolution des valeurs des Français. Bruno Cotresse.
Très clairement, on peut effectivement lire assez clairement toute la crise démocratique, sociale que nous venons de vivre depuis de nombreux mois, dont il faut rappeler qu'elle est sans aucun doute la plus importante crise que nous ayons vécue sous la Ve République, pratiquement. On peut effectivement la lire à travers les évolutions que l'enquête documente. Il y a quelque chose qui est des résumés de cette crise. Lorsque certains essayaient de ne pas opposer fin du monde et fin du mois, on voit qu'effectivement on est bien dans la tension entre les dimensions matérialistes et post-matérialistes.
Alors, il faut définir ce qu'est le post-matérialisme.
Le post-matérialisme, c'est une dimension des attitudes politiques, sociales, qui a été mise en œuvre, qui a été découverte par un politiste américain qui s'appelle Ronald Engelhardt, qui a consacré sa vie entière, sa vie scientifique entière, à la question de ces valeurs post-matérialistes. Et c'est l'idée selon laquelle il y a une transformation générationnelle dans les sociétés, pas seulement les sociétés occidentales développées, mais il y a une transformation générationnelle. Les générations qui sont nées dans l'après-deuxième guerre mondiale sont porteuses d'un ensemble de valeurs un peu différents. Elles ont été moins exposées à la privation, elles ont été moins exposées aux besoins impératifs d'assurer sa survie, et elles ont du coup développé des projets de vie qui sont davantage centrés sur la réalisation de soi, le projet de vie personnel, ce qu'on appelle les valeurs du post-matérialisme. C'est des effets de génération qui sont extrêmement importants et qui expliquent ce que l'enquête montre très bien, c'est-à-dire la montée progressive dans le temps, presque inexorable, de ces valeurs, ce qui n'empêche pas de temps en temps qu'il y a des coups de frein à la progression de ces valeurs. Et effectivement, on voit à travers la crise des Gilets jaunes qu'on a bien été dans une très grande tension et un grand conflit avec deux dimensions, à la fois une dimension matérialiste, un conflit de classe, pratiquement un conflit d'intérêts, et puis un conflit sur des valeurs.
Oui, c'est très important d'expliquer ça aux auditeurs, parce que effectivement, pendant très longtemps, on s'est dit que le matérialisme c'était terminé, que les gens n'étaient plus dans cette course effrénée à la consommation. Et ce que montre l'enquête, alors on ne peut pas généraliser à la totalité de la société, et c'est justement en cela que les mesures sont intéressantes. On s'aperçoit qu'il y a une partie de la société effectivement qui est moins dépendante à des valeurs telles que la consommation, telles que l'accumulation de biens, et puis une autre partie, Pierre Bréchon, qui elle est très clairement matérialisée. Évidemment pas un jugement de valeur, c'est un jugement de fait, c'est-à-dire que pour ces gens-là, la première des questions est une question liée à leur niveau de vie.
Tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien, enfin ce qu'on peut rappeler, c'est que Engelhardt avait une vision très très utopique quand il a commencé à travailler sur ces sujets. Il avait une vision très utopique et très évolutionniste, c'est-à-dire qu'il avait l'idée que on allait aller de plus en plus, sans aucun retour, vers des valeurs de post-matériel, de qualité de la vie et non pas de quantité. Et là, il faut bien reconnaître qu'il s'est un petit peu trompé. Il a vu trop rose, on va dire, ou trop, je sais pas comment il faut dire, quelle est la bonne couleur. En tout cas, les choses que montrent nos enquêtes, c'est que les choses sont plus mêlées que ça, et qu'en fait, les gens sont à la fois des volontés d'individualisation, de post-matérialisme, de qualité de vie, de défense de l'écologie, et en même temps, pour beaucoup de nos concitoyens, on a en même temps des préoccupations matérielles. Et les préoccupations matérielles, au fond, ne baissent pas. Au fond, ce que montre l'évolution historique, c'est que selon les périodes, selon les conjonctures, on met en avant plutôt l'un, plutôt une tendance ou plutôt l'autre. Et en fait, on est souvent un peu mixte dans nos attentes entre matérialisme et post-matérialisme.
Oui, d'ailleurs, Bruno Retraisse. Oui, d'ailleurs, dans cette crise des Gilets jaunes, sur la dimension elle-même matérialiste matérielle du rapport, on va dire, au pouvoir d'achat, aux inégalités, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, il y a une forte dimension également presque morale. L'idée qu'on ne peut plus vivre dignement du fruit de son travail, qui est une atteinte à la dignité même de ce qui fait la grandeur de l'homme dans une société, la place qu'on accorde à chacun, etc. Donc il y a une dimension très fortement matérialiste, de conflit d'intérêts, de conflit de classe, mais aussi une forte dimension, au-delà même des valeurs, une dimension presque morale sur le sens du travail, le sens de la dignité dans une société moderne capitaliste.
Et aussi, on a vu dans le mouvement des Gilets jaunes une volonté d'expression démocratique et participative qui est tout à fait un trait de post-matérialisme.
Et alors, justement parce que dans ce contexte-là des Gilets jaunes, il y a eu une floraison de sondages, certains ayant une méthodologie, comment dirais-je, peut-être critiquable ou douteuse, on a dit, ben voilà, les Français, de plus en plus nombreux, adhèrent à un régime autoritaire. Il y a même eu cette légende urbaine comme quoi les Français voulaient de manière urgente qu'un militaire prenne la tête du pays. Qu'en est-il là aussi par rapport aux évolutions longues que vous observez, Bruno Cotterès ?
Alors effectivement, il y a une pluralité d'indicateurs qui sont aujourd'hui disponibles, avec des variations d'ailleurs dans l'amplitude des chiffres qui sont liées aux méthodes d'enquête un peu différente. En tout cas, dans l'enquête qui nous occupe aujourd'hui, l'enquête de 2018 sur les valeurs des Français, on voit qu'on n'a qu'un quart des Français qui disent que pour la France, un bon système politique pourrait être un homme fort qui n'a pas à se préoccuper des élections et du Parlement. Par contre, on a 13% aussi, alors c'est un chiffre qui est plutôt en déclin hein, par rapport à il y a 20 ans. Par contre, il y a 13% qui disent que l'armée dirigeant le pays, ça pourrait être un bon système. Et là, c'est un peu en augmentation. Et là, c'est assez cohérent avec les autres enquêtes. Donc il y a effectivement coexistence aujourd'hui dans les valeurs des Français d'une profonde aspiration démocratique. La crise des Gilets jaunes l'a montré. Effectivement, très grande insatisfaction sur le fonctionnement du système démocratique. Immense aspiration à la prise de parole par les citoyens, à davantage avoir son mot à dire, à davantage de participation. Et puis en même temps, eh bien, effectivement, une demande que ça fonctionne, que ça tourne, que le système délivre ses promesses et qu'il fonctionne. Donc on a la coexistence. Il y a une autre enquête qui est réalisée au CEVIPOF annuellement sur le rapport des Français à la confiance politique et qui a montré ces dernières années que nous sommes un peu, eh bien, de ce point de vue-là, à double face. On veut à la fois que les hommes et femmes politiques nous sollicitent, prennent en compte notre point de vue, et en même temps, on veut qu'ils fassent leur job, que ça fonctionne, que le système démocratique fonctionne très bien.
Et alors, toujours dans le même registre, on s'aperçoit en lisant donc La France des valeurs que toutes les institutions ne sont pas du tout discréditées. Il y a des institutions en lesquelles les Français ont très largement confiance. Alors, j'en cite quelques-unes. Le système de santé, on est passé de 77% des Français qui avaient confiance dans le système de santé à 84%. Alors, c'est toujours important de lire ces statistiques. Ça veut dire qu'il y a effectivement une proportion de Français qui n'a pas confiance dans le système de santé, 16%. Peut-être qu'on recrute parmi ces gens-là les personnes qui sont par exemple méfiantes vis-à-vis des vaccins, mais on voit quand même que la tendance est une tendance très forte en faveur donc de la confiance vis-à-vis du système de santé. La police, même chose, là aussi c'est une surprise. On passe de 64% des Français qui ont confiance dans la police à 79% aujourd'hui. Alors avec les violences policières liées à la crise des Gilets jaunes, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais ça veut dire quand même que pratiquement 80% des Français avant cette crise-là avait confiance en la police. Et puis, à contrario, une institution qui est de plus en plus discréditée, c'est l'Église. Et là, le lien, j'imagine, peut être fait avec les scandales de pédophilie, puisque là, on est passé de 54% des Français qui avaient confiance en l'Église, qui est donc bien moins que le système de santé, à 42%. Un commentaire, Pierre Bréchon ?
Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de stabilité dans les résultats de cette question. C'est-à-dire que cette question, on l'a posée depuis le début de l'enquête, pratiquement. Hein. Donc, en fait, le palmarès est assez stable. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les institutions de l'État-providence sont très bien vues. L'armée et la police étaient assez bien vues. Alors, il y a des évolutions quand même. Et donc, comme vous l'avez dit, l'armée et la police ont vu la confiance des gens augmenter. Alors, c'est pas toujours une très forte confiance, mais elle a augmenté.
80%, c'est pas mal.
Oui, mais c'est les gens qui disent très confiance et assez confiance. Donc, si vous voulez, il y a dans les réponses, il faut un petit peu, on peut raffiner si on veut. Mais en tout cas, les institutions de l'État-providence, les institutions de maintien de l'ordre ont une bonne image. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que les représentants, les organisations représentant les corps intermédiaires ou les institutions de la démocratie, donc les syndicats, les médias, le Parlement, ont une image plutôt médiocre.
Alors attendez, parce que la presse, là aussi j'ai été surpris, la presse, on explique qu'elle est discréditée. Elle a aujourd'hui 29% de confiance, qui est effectivement un chiffre faible. Mais en 1981, on était à 31%. Oui. Ce qui veut dire que l'effondrement que l'on commente sans cesse sur le fait que les médias sont encore plus discrédités qu'auparavant, en réalité, de 1981 à aujourd'hui, les médias suscitent toujours autant de défiance.
Oui, alors ce qu'il faudrait, c'est des questions assez générales. Après, si on rentrait dans les détails, on verrait d'autres choses. Et notamment, ce qui est peut-être le plus intéressant pour aujourd'hui, c'est que les médias sociaux, qui sont quand même pas mal regardés, ont une très mauvaise image. C'est-à-dire qu'on les regarde, mais alors on n'a aucune confiance.
14%.
Oui, voilà. Donc la confiance, c'est degré zéro. C'est la même chose que les partis politiques.
Et alors, toujours dans justement cette manière de s'orienter politiquement, Bruno Cotterêss, il y a beaucoup d'enseignements sur le système économique privilégié des Français. Et là, c'est un peu compliqué. On voit, si on essaye de résumer brièvement, le libéralisme est de plus en plus discrédité, mais dans le même temps, la responsabilité individuelle est soulignée. Ce qui veut dire que les chômeurs sont considérés, et notamment par les Français les plus âgés, comme devant se débrouiller par eux-mêmes.
Oui, effectivement, des dimensions qui sont un peu, je dirais pas contradictoires, mais il y a des dimensions qui se complètent. On a effectivement, à la fois sur une très longue durée, une tendance à l'augmentation du sens de la responsabilité individuelle, qui, elle, s'explique par ces valeurs qui montent, qui sont les valeurs de l'autonomie de l'individu, le sentiment qu'effectivement chacun doit être le maître de son projet de vie, chacun doit trouver sa voie, chacun doit essayer de trouver par lui-même les moyens de son autonomie, mais ça ne veut pas dire pour autant une acceptation du libéralisme. Pour citer Pierre Bréchon dans un de ses travaux, il disait un jour que c'était aujourd'hui davantage chacun son choix, c'est-à-dire l'individualisation, que le chacun pour soi, l'individualisme. Et cette différence est tout à fait essentiel à poser. On peut être à la fois libéral au sens de chacun doit s'épanouir et trouver le projet de sa vie, sans être pour autant un partisan du chacun, chacun pour lui-même et uniquement pour lui-même.
Mais alors, parce que toujours si on détaille ça, on peut soupçonner les partis politiques de lire ce type d'enquête. Alors on voit par exemple, les chômeurs devraient être obligés d'accepter tout emploi. Alors ça, c'est donc une proposition. En 1990, on a 25% des Français qui considèrent que les chômeurs devraient prendre n'importe quel emploi. En 2018, on a 47%, Pierre Bréchon. Ce qui veut dire que quand on songe par exemple à cette réforme de l'allocation chômage, on se dit que il y a une évolution des sensibilités et des valeurs. Alors on peut la contester, la déplorer, etc. On fait ici que la constater, Pierre Bréchon, un commentaire.
Oui, tout à fait. Donc ça confirme que il y a beaucoup de d'attentes contradictoires en matière économique, c'est-à-dire que les Français veulent à la fois du libéralisme et en même temps, si on regarde un peu tous les indicateurs disponibles, ce qu'on voit, c'est que en même temps, ils veulent des filets de protection. Donc l'idée de nécessité d'avoir des filets de protection et des acquis, de maintenir les acquis sociaux, ça n'a pas baissé, ça a même plutôt augmenté sur certains de nos indicateurs. Donc on voit qu'il y a que en matière économique, on veut à la fois, au fond c'est assez conforme à ce que je disais tout à l'heure sur le post-matérialisme et le matérialisme, c'est-à-dire qu'on veut à la fois de la liberté individuelle, on veut de la liberté de s'expression, de pouvoir agir, y compris en matière économique, liberté d'entreprendre, et en même temps il faut de la régulation sociale.
Et la question de la droite et de la gauche, parce que là aussi, c'est une question qui a été largement commentée avec l'élection d'Emmanuel Macron. On a dit, ben voilà, maintenant il y a une fin de la polarisation du pays. Qu'observez-vous, Bruno Cotterêss ?
On observe qu'effectivement, il y a à la fois une augmentation dans le temps du nombre de Français qui vont se déclarer ni de gauche ni de droite. Mais ça ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron. Et en même temps, une très forte capacité de résilience de cette dimension fondamentale de la politique française qui est de se situer dans les deux grandes familles politiques. Donc on a une sorte de presque de découplage aujourd'hui entre la gauche et la droite telle qu'elle s'interprète dans la structuration partisane du jeu politique français. Effectivement, on a bien vu que dans les élections de 2017, le sol avait beaucoup plus que tremblé sous la gauche et sous la droite, qu'on avait une véritable effondrement même d'un système partisan lié autour de l'idée d'une alternance régulière entre ces deux grands blocs politiques. Et pour autant, dans le domaine idéologique, dans le domaine des courants de pensée, la question de la gauche et de la droite continue d'exister profondément. Effectivement, Pierre Bréchon le rappelait tout à l'heure, si on prend même d'autres enquêtes, dans la vague que nous avions réalisée au CEVIPOF de notre baromètre annuel sur la confiance politique, publié en janvier, nous avons vu que jamais au cours des 10 ans d'existence de cette enquête, les attentes sociales, les attentes en termes de justice sociale, en termes de lutte contre les grandes inégalités de la vie, jamais elles n'avaient été aussi fortes. Donc des thématiques qui sont des thématiques typiquement de la gauche, continuent d'être aujourd'hui très fortement portées dans l'opinion publique, alors même que les partis politiques qui incarnent le projet politique de lutter contre ces inégalités sont, eux, assez ébranlés depuis l'élection de 2017.
Pierre Bréchon, un commentaire ?
Oui, ça montre ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que entre les valeurs des gens, dont on voit qu'elles sont à la fois libérales, mais un libéralisme moins exacerbé que dans les années 80 ou 90, et que on veut des acquis sociaux, entre ce qui se joue au niveau des valeurs et ce qui se joue au niveau du jeu politique, il y a un certain écart. Il y a un certain écart qui est dû à des tas d'autres facteurs qui interviennent dans la vie politique, qui est lié beaucoup plus aux conjonctures, alors que les valeurs ont une pérennité et n'évoluent que lentement.
Et puis alors, il y a des chiffres qui m'ont passionné, sont les qualités que les parents doivent favoriser chez leurs enfants. On a demandé donc aux Français comment il fallait élever ses enfants. Alors, on voit quelque chose, et ça c'est parfaitement cohérent avec le reste du tableau, la tolérance et le respect des autres. Alors ça augmente en flèche. En 1981, il y a 59% des Français qui pensent qu'il faut apprendre la tolérance aux enfants. Aujourd'hui, 85%. Il y a aussi la détermination et la persévérance, qui est une qualité qui est plébiscitée alors qu'elle l'était beaucoup moins. Et puis alors, de manière un peu étonnante, il y a les bonnes manières. C'est-à-dire que on est passé de 20% des Français qui pensaient en 81 qu'il fallait apprendre les bonnes manières aux enfants à 74%. Comment vous l'expliquez, Pierre Bréchon ?
Alors, je pense que c'est un peu la suite de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que on est de plus en plus individualisé, on veut des valeurs d'individualisation, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus attention à ce qui est matériel. Donc la tolérance, c'est très important dans une société individualisée. La première condition pour bien vivre ensemble, c'est de tolérer ce que font les autres. Je veux être autonome dans ma vie privée et je dois reconnaître aux autres qu'ils peuvent être autonomes aussi, donc je n'ai pas à juger ce qui se passe chez eux. Bon, donc autonomie de l'individu, et les enfants doivent être tolérants, ils doivent être responsables. Donc la valeur de responsabilité est aussi très forte dans le palmarès des valeurs à inculquer aux enfants. Et puis les bonnes manières, ça vient aussi dans le palmarès de tête en effet, parce que on veut des enfants qui ne fassent pas tâche, qui soit bien intégré dans la société. Donc les bonnes manières, c'est aussi dire bonjour à la dame, mais c'est de manière plus large, c'est au fond, ne pas faire de vagues, avoir des enfants qui s'insèrent bien, qui sont bien inscrits dans une société, qui y sont à l'aise. Et donc, c'est aussi jugé très important.
Oui, les Français décodent assez bien qu'on est dans des sociétés de signes, des sociétés de symboles. Et effectivement, le code de bonne conduite sociale, qui est très valorisé comme un élément important de l'éducation, beaucoup de parents pensent que c'est aussi un passeport pour la réussite sociale, qu'il faut effectivement coller au moule d'une certaine manière. Et effectivement, les bonnes manières, c'est pas seulement les bonnes manières quand on est à table avec ses parents ou avec sa famille, mais c'est aussi les bonnes manières dans la société, le respect des codes qui sont... Et donc je pense que beaucoup de Français ont compris qu'il n'y a pas seulement la dimension économique ou culturelle avec les diplômes, mais qu'il y a aussi la dimension de maîtriser les codes de la société pour être dans la réussite.
Et puis alors, et en matière de valeur de tolérance, puisque donc, comme je l'ai rappelé, c'est quelque chose qui est largement plébiscité par les familles aujourd'hui, il y a différentes manières de mesurer la tolérance ou l'intolérance. Alors, on peut demander par exemple aux gens s'ils considèrent par exemple que le divorce est justifié ou pas, même si le terme peut paraître étonnant puisqu'on se prononce sur finalement les vies d'autrui. Et puis, il y a d'autres chiffres sur les voisins indésirables. Et là, sur les voisins indésirables, on voit que on a 57% des Français qui ne veulent pas habiter à côté de drogués, 23% de Français qui ne veulent pas habiter à côté de gitans, et puis pour les autres minorités, 8% des Français qui ne veulent pas habiter à côté de musulmans, 7% à côté d'homosexuels et 4% à côté de juifs. Votre commentaire, Pierre Bréchon.
Eh bien, ça montre que, au fond, ce que les Français ont du mal à accepter dans leur environnement immédiat, le voisinage, c'est plus les gens qui risquent d'amener de la nuisance, donc les drogués. Avant, on avait aussi les alcooliques.
Et vous les avez toujours. Oui, on les a toujours. Sont
les
41%.
Gens portaient de la boisson. Donc ça, c'est les gens qu'on veut vraiment pas avoir parce que on estime que ça peut amener des nuisances dans l'environnement immédiat. Par contre, les catégories telles que vous avez citées. Donc, les homosexuels, ça a beaucoup baissé. Les gitans, il en reste 23%, mais ça a beaucoup baissé aussi. Et là,
ça veut dire que le racisme, l'homophobie existe, hein. On est capable
bien
de
sûr.
Les mesurer, mais elles sont diminué.
Plutôt à la baisse en longue période. Ça, ce qui n'empêche pas des remontées périodiques. Et donc, ce que je peux rajouter aussi, c'est que les voisins indésirables, ça fait appel aussi à une autre question. Dans la longue batterie sur ce qui est justifié et pas justifié, il y a tous les comportements dont on a cité qui touchent à la vie privée, mais il y a aussi des comportements qui touchent à la vie publique. C'est-à-dire, par exemple, ne pas payer son billet de son billet dans le bus, frauder aux impôts. Donc, on a 4 ou 5 comportements de ce type.
Et alors ?
Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, autant on veut de la liberté dans la vie privée, et sur ces indicateurs de vie privée, de libéralisme des mœurs, on a eu une très forte croissance en 40 ans, autant sur tout ce qui touche à la vie publique, c'est en gros la stabilité, c'est-à-dire que en gros, on n'est pas plus laxiste aujourd'hui concernant globalement, on n'est pas plus laxiste que il y a 40 ans, c'est-à-dire qu'on veut de la liberté pour le privé et on veut de l'ordre social. Il y a une demande d'autorité et d'ordre qui est tout à fait forte dans la société française.
Ce qui veut dire, Bruno Cotresse, traduction politique de ça, et quand on voit donc l'intolérance vis-à-vis des minorités qui est de 4 à 8%, 23% si on monte pour les gitans sur le thème « je ne veux pas habiter à côté d'eux », ce qui veut dire que finalement un discours politique très dur sur le refus de l'autre aurait aujourd'hui une base électorale mince.
Sans aucun doute. Il y a de la place dans l'espace politique et partisan français pour des projets politiques qui seraient exclusivement basés sur ces questions-là. Par contre, si ces projets n'étaient que exclusivement basés sur la question du rejet de l'autre ou de miser sur les craintes, sur les peurs, il y a effectivement un espace. On voit que quand même sur la question de l'immigration, le Rassemblement national a su très largement préempter cette question. Mais en même temps, ça n'a pas vocation à devenir majoritaire si ça n'était que exclusivement fondé sur ces questions. Et là, on touche un peu au cœur des problématiques politiques françaises. La politique française, comme dans de très nombreux autres pays, est une politique avec plusieurs dimensions. Il y a une pluralité des dimensions du rapport des Français aux politiques. Et beaucoup de mouvements politiques aujourd'hui sont un peu coincés en faisant le grand écart parfois entre leurs propositions dans le domaine économique et leurs propositions dans le domaine des mœurs, dans le domaine de la tolérance. Et on voit que réaliser une combinaison parfaite sur ces deux dimensions est devenu aujourd'hui très compliqué. Donc ceux qui voudraient régler ce problème en ne se cantonnant qu'une seule dimension, notamment cette dimension qui pourrait être du conservatisme, on dirait, il y a de la place, mais c'est une place qui est nécessairement condamnée à être assez restreinte.
Et puis alors j'aimerais terminer par un autre enseignement. Alors il y a beaucoup de chiffres sur Dieu et sur l'évolution de la pratique religieuse, comme on imagine, on est dans une France qui se sécularise, qui est de plus en plus laïque, mais 4 croyances religieuses en France ne cessent d'augmenter. Là, j'ai été très surpris. La croyance en la vie après la mort, dans le paradis, dans la réincarnation. Ça veut dire qu'on est vraiment face à un phénomène relatif au New Age, avec de nouvelles croyances. Il y a aujourd'hui 41% des Français qui croient en une vie après la mort, et de plus en plus de Français, un tiers des Français qui croient en la réincarnation, Pierre Bréchon.
Oui, donc c'est vrai, toutes les croyances ne baissent pas. La croyance en Dieu baisse. Par contre, la croyance à des choses au-delà de nous, mais assez floues, ça ne baisse pas et ça monte. Et ça monte encore plus, que vous n'avez peut-être pas précisé, mais ça monte encore plus dans les jeunes générations que chez les gens âgés. Donc ça, c'est assez étonnant quand même, en effet. Et donc, ça veut dire qu'il y a la sécularisation n'est pas la fin de toute croyance religieuse. La sécularisation, c'est une perte de prégnance des grandes institutions religieuses. Les récits religieux précis perdent de leur force. Par contre, les idées floues, les idées religieuses un peu floues, mais qui donnent un espoir de futur au-delà de ce qu'on est aujourd'hui, ça se maintient ou ça progresse.
Un mot de conclusion, oui, Bruno Cotteret.
Sur ces questions, les spécialistes de sociologie de la religion disent très souvent qu'aujourd'hui, on voit une augmentation du croire, qui ne veut pas dire forcément, et qui coexiste avec un déclin, par contre, des appartenances religieuses. Donc effectivement, nous sommes des sociétés où le besoin de croire dans quelque chose qui nous dépasse s'affirme effectivement dans les jeunes générations.
La France des valeurs, sous la direction de Pierre Bréchon et de Sandrine Astor et de Frédéric Gontier, c'est aux presses universitaires de Grenoble. J'y ai appris plein de choses.